Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM, l'émission Le Fil du Fer. Aujourd'hui, l'émission reçoit pour la seconde fois Hélène Gache-Féline. Nous sommes en train de faire l'enregistrement chez elle et nous nous tutoierons puisque nous nous connaissons. Hélène, bonjour.
Bonjour.
Lors de la première émission, à la fin, il y a eu un mot qui a terminé l'émission et c'est la joie. Qu'est-ce que c'est que la joie pour toi ?
Alors, qu'est-ce que c'est que la joie ? La joie dont je parlais, on était autour de Bach et c'est la joie qui est liée, pour moi la joie est liée à l'espérance dans la musique de Bach. La joie est liée à l'espérance et à la foi. C'est-à-dire que je pense que tout ce qui transparaît chez Bach, c'est qu'il n'y a jamais de drame, il n'y a jamais d'effroi, comme on peut le trouver chez Mozart, par exemple. Dans le Requiem de Mozart, on a la musique de l'effroi, de la peur, de la terreur. Chez Bach, on n'a jamais ça. On a toujours l'espérance.
Cette joie chez toi, donc quand tu écoutes Bach ou d'autres, est-ce que c'est une joie qui se ressent physiquement ?
Oui, c'est une joie qui allège. Oui, elle se ressent physiquement parce que les choses deviennent plus faciles, plus. Pour moi, la joie, c'est pas la gaieté. La joie, c'est quelque chose de plus profond qui est un état d'être, en fait. Même pas un état d'esprit, c'est une façon d'être, oui, dans la joie.
Façon d'être, c'est-à-dire que tu t'es construite pour être apte à la joie ?
Je sais pas si je me suis construite comme ça, je crois pas. Je pense pas avoir été toujours apte à la joie. Peut-être que la musique a fait ça. Ouais, le chant et la musique, être traversé par la musique.
Est-ce que c'est un plaisir solitaire ?
Rarement. Mais déjà, quand on chante, on est accompagné par celui qui a créé la musique. Donc, on est dans les pas du compositeur ou de la compositrice. Et quand on chante en chœur, encore moins, on n'est jamais seul.
Tu as dit, lors de du premier entretien, tu as raconté ta rencontre avec un groupe musical, un chœur. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots de ce chœur ? Donc, tu l'as intégré à une quarantaine d'années. Ça fait un moment, pardon, de le
non, mais il n'y a pas de souci.
et de dire pourquoi à ce moment-là de ta vie et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour toi ?
Alors, un moment de ma vie où déjà mes trois enfants commençaient à être grands et donc où j'avais possibilité d'être disponible pour ce travail-là, déjà un soir par semaine et puis des week-ends aussi dans l'année. Donc, et puis une envie de faire de la musique et une envie aussi de rentrer dans un groupe. J'avais envie de rentrer dans un groupe. Celui-là était suffisamment important. Hein, à l'époque, il devait y avoir 90 choristes à peu près. Donc, il était suffisamment important pour que je puisse penser, imaginer que j'allais passer inaperçu et que j'allais pouvoir me fondre dans la masse et pouvoir chanter.
Et on va voir que non. Est-ce que tu pourrais donner le nom de ce chœur ?
Oui, ce chœur s'appelle l'ensemble vocal Van Berkem et du nom du compositeur. Van Berkem est un compositeur de musique baroque et c'est la première œuvre que ce chœur a donnée à sa création et donc et il a gardé ce nom-là depuis le temps. Donc c'est un chœur amateur mais d'un bon niveau, qui est spécialisée dans le chant sacré, la musique sacrée, beaucoup la musique baroque, et voilà, qui a eu la chance de chanter des grandes œuvres du répertoire, des grands compositeurs, Mozart, Bach, mais aussi Puccini, Haydn, des tas de compositeurs baroques comme Galuppi, Vivaldi, etc.
Vous êtes même allé, je crois, à Marseille.
Ah, on a fait aussi, on en a vécu des aventures incroyables. On a fait, par exemple, des concerts dans l'Avène Armand. On a chanté les funérailles de la Reine Marie de Purcell dans l'Avène Armand avec les trompettes. En fait, c'était formidable. On a chanté à Notre-Dame de Paris et on a eu un projet où on a participé à un festival de musique techno qui s'appelle le Dog des Suds à Marseille. Et le festival Dog des Suds avec Voracle, qui est un DJ compositeur de musique électro, et il avait eu envie de mêler la musique électronique avec des musiciens classiques sur scène et avec des chanteurs voilà, qui habituellement chantaient de la musique classique, et donc on a eu la joie de chanter devant des milliers de personnes.
Je rebondis à ce que tu avais dit de ta recherche pour intégrer un groupe. Est-ce que ça a à voir avec le métier d'orthophoniste où tu es en face à face et tu as une responsabilité? Est-ce que c'était ou c'est autre chose? Ou alors je
oui, c'est vrai que l'orthophonie, c'est un métier un peu solitaire, en fait, même si on a des collègues de travail qui sont au même endroit que nous. On est toujours seul avec le patient, donc surtout quand ça faisait longtemps que j'avais abandonné le salariat, donc j'avais pas d'équipe de travail, donc c'est vrai que ça me mais c'est aussi la volonté de faire une activité où j'étais en relation avec d'autres personnes.
L'Aveyron, donc l'Aveyron, c'est là où se trouve le cœur, oui. C'est là où tu habites, mais tu n'es pas d'ici.
Pas du tout.
Alors, l'Aveyron, pourquoi et d'où tu viens et comment on arrive
à l'Aveyron ? Oui, je pense que tout le monde a connu ça. C'est les aléas du travail, souvent. En fait, moi, je suis montpelliéraine. J'ai fait mes études à Montpellier. Je me suis mariée. Mon mari était chirurgien-dentiste, donc il devait faire l'armée, il était sursitaire, enfin bref. Et donc, il a commencé par faire un remplacement en Touraine, donc on a vécu un peu en Touraine. Et puis, on attendait une réponse qu'il puisse être exempté de l'armée. Et en attendant cette réponse, et ben, comme on avait déjà un enfant, on espérait qu'il partirait pas. Et donc, voilà, il s'est trouvé à faire un remplacement dans le sud Aveyron. Il n'y avait pas d'orthophoniste là, donc moi j'ai ouvert mon cabinet en attendant, surtout qu'il a dû partir à l'armée. Donc, il est parti 16 mois à l'armée. Et donc, moi, il fallait bien que je mange. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à travailler dans l'Aveyron. Et puis, la région nous a plu. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on est resté.
Oui, resté. Après, avec la retraite, donc, la première émission, tu as dit que ta maison, enfin, votre maison avec ton second mari, c'était un presbytère qui a été, donc, vous avez rénové, etc. Donc, cet attachement. Tu aurais pu avoir envie de se redescendre à Montpellier, puisque c'est là.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que dans ton fil du fer, donc il y a le métier, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ?
Alors, je pense que j'aurais énormément de mal à ne pas vivre en milieu rural. Moi, tous les matins, je regarde par la porte-fenêtre de ma cuisine et j'ai la forêt en face et je vois les biches et je vois les... les chevreuils plutôt, les petits lapins, etc. Et voilà, j'aurais beaucoup de mal à vivre en ville. Ça fait très longtemps hein, que j'ai fait ce constat-là. Voilà, c'est devenu... deux de mes enfants sont nés ici en Aveyron. C'est devenu chez moi.
Est-ce qu'aussi donc, ton goût pour le monde rural, la campagne, a à voir avec les sons? Il y a les bruits urbains et peut-être qu'il y a les sons à la campagne. Je ne sais pas si la différence.
Il y a ouais,
les
sons,
il y a tes mésanges qui sont aux fenêtres.
Il y a tout ça. Le fait d'être près de la nature, les bruits de la nature, le vent, Ouais, je crois que ça joue. J'ai beaucoup de mal avec le bruit en ville. Les odeurs, la pollution, je crois que tout est devenu plus compliqué aussi dans la vie urbaine. Ça me fait pas envie du tout.
D'accord. Puis l'endroit est quand même magnifique. Moi, chaque fois que je viens ici, j'adore voir. J'ai pas vu de biche encore.
Non, t'en as pas vu encore.
Ce plaisir d'être avec d'autres. Comment est-ce qu'il s'exerce et se traduit aussi? Je pense à la nourriture, je pense à ta manière de recevoir. C'est une éducation, recevoir, ou c'est quelque chose que tu as cultivé et tu as trouvé ta propre voie dans le...
Ah, ma mère adorait ça. Ma mère adorait faire la cuisine et recevoir. Ça, c'est un truc auquel je suis habituée depuis que je suis enfant.
Comme recevoir tes patients, tes anciens patients. Il y avait quelque chose de ça. La manière de faire rentrer, de mettre en confiance.
Je ne sais pas. Mais ma mère recevait beaucoup d'amis. Ils avaient c'était plus dans les rencontres amicales. Après, moi, je suis très attachée aussi aux relations amicales. C'est très important. Donc, c'est pour ça que... Oui, mais je suis restée dans le relationnel, de toute façon, que ce soit dans l'orthophonie ou dans la vie privée.
Et recevoir, alors, pour Hélène, qu'est-ce que c'est recevoir Là, c'est pour aussi décrire le personnage, les émotions, ce qui te constitue comme personne, comme individu, et qui est aussi ce qui a permis de faire ce que tu as fait dans ta vie. Voilà, tu n'es pas une solitaire, je ne crois pas. Et donc, accueillir, qu'est-ce que c'est que accueillir l'amitié dans le groupe vocal dans lequel tu es aussi, tu as tissé des liens, tu y es tombée amoureuse, voilà, qu'est-ce que ça...
Alors, les liens qu'on peut tisser à l'intérieur d'un cœur, ils sont très particuliers, ils sont extrêmement particuliers parce qu'ils vont se jouer autour de la voix, c'est-à-dire qu'on peut... On peut côtoyer des gens avec qui on aurait peu d'affinités. On côtoie des gens avec qui on est potes, hein, c'est pas la question. Mais on va s'articuler autour du fait de ne faire qu'une seule voix. Et donc, ça demande de passer au-dessus et au-delà des sympathies ou des antipathies ou des... voilà, vous pouvez avoir un voisin qui vous agace suprêmement. Moi, je me rappelle d'une année où j'étais à la jonction avec les ténors et j'étais à côté d'un ténor qui m'exaspérait, qui est parti depuis bien longtemps, donc je peux le dire, il y a prescription. Il ne chante plus dans le chœur depuis longtemps. Mais n'empêche que, quand on se mettait à chanter, il était hors de question que ma voix ne le soutienne pas et qu'il ne me soutienne pas dans la voix. C'est-à-dire que dans la vie courante, il pouvait m'agacer beaucoup, mais une fois qu'on se met à chanter, le but, c'est de chanter tous ensemble et de servir la musique. Et en fait, de chanter que d'une seule voix. Et des fois, on se retrouve à avoir une intimité vocale parce que notre voix, elle va être exactement sur les mêmes formants vocaux que la voix de votre voisine. Et donc, les deux voix ne font qu'une. Et cette addition de voix qui ne font qu'une, c'est assez magique et ça crée un lien qui est un peu indescriptible et qui va au-delà des affinités ou pas.
Et pour la voix au quotidien, ta voix, est-ce que tu t'es éduqué toi-même? Est-ce que la manière de parler, la prosodie, le
Alors,
rythme, est-ce que tu poses ta voix?
en ce qui concerne le chant, oui, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres personnes. J'ai eu des profs de chant, j'ai fait des stages, j'ai fait
Mais au
beaucoup de
quotidien, je
formations.
veux dire, vraiment la relation au quotidien, est-ce que, par ta connaissance de la voix, aussi de l'impact que peut avoir la voix chez les autres, est-ce que tu as appris à en jouer?
Oui, je crois que oui, je crois que en tout cas dans la voix parlée, je pense que quand on est en relation avec des gens qui peuvent être parfois dans le souci, dans la détresse, la voix, il faut qu'elle soit apaisante, il faut qu'elle puisse inspirer la confiance. Quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a eu un très grave accident de voiture et qui ne parle plus et qui est complètement désordonné, désorganisé, etc., c'est sûr que vous ne pouvez pas arriver comme une pipelette et commencer à raconter votre vie. Il faut que vous parliez lentement, que la voix soit posée, qu'elle soit dans un bon registre, qu'elle puisse apaiser la personne, etc.
J'entends à travers ce que tu viens de dire que peut-être tu as été touché par des patientes ou des patients dans une situation de l'aphasie, donc on ne parle plus, si j'ai bien compris. Donc c'est très important, parler, communiquer. Donc est-ce que tu. Comment est-ce que tu réagissais certes, tu étais dans le monde paramédical, peut-être une distance, mais avec des situations de, voilà, la voix n'est plus là. Et tu parlais de la
Alors,
détresse, de...
je pense que pour des pathologies comme ça, il faut savoir qu'on s'engage sur un long temps. On sait que ça va durer, qu'on va se voir beaucoup et qu'on doit être dans l'empathie, dans l'écoute et jamais dans la sympathie. On ne peut pas porter la misère de l'autre. Par contre, l'empathie, c'est extrêmement important, savoir toujours doser, essayer d'être exigeant dans le travail, mais aussi doser l'effort que ça demande, pouvoir vraiment voilà, savoir où on va. Je pense que c'est comme dans la musique, en fait. On ne doit jamais interpréter, on doit suivre une partition. Et le travail d'orthophonie, c'est un travail de partition. En fait, on sait que on doit retrouver ça d'abord, puis ça après, puis voilà. On va avoir un plan d'attaque, un plan de travail qui est assez rigoureux, et même si on a plein d'exercices différents pour arriver à ce but-là, le but, il est vraiment, on sait où on va, en fait. On ne sait pas ce qu'on va obtenir, mais on sait où on va, on sait ce qu'on veut.
C'est le moment de la pause musicale. Tu
Oui.
as choisi Bach,
Oui,
Jean-Sébastien.
j'ai choisi un choral qu'on entend à la fin de la Passion selon Saint-Jean.
Alors écoutons-le et je suis certain qu'on y entendra la joie
Oui,
dont on parle depuis un
absolument.
moment.
Thank you.
Vous écoutez le fil du fer d'Hélène Gache-Féline, c'est la seconde partie, et nous avons entendu le cœur final de la passion selon Saint Jean. Pourquoi est-ce que cette passion-là semble te toucher plus que celle de Matthieu?
Ah oui, oui, oui. La Saint Jean, pour moi, c'est le top du top. Ça correspond aussi à une période de ma vie. Enfin, pour moi, c'est la période où j'ai chanté la Saint Jean de Bach. C'était une année assez essentielle dans ma vie. Et un vrai challenge, chanter Bach, c'est un vrai challenge. D'abord parce que je suis pas du tout germanophone, et donc il y a beaucoup d'exigences sur la prononciation. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'aime pouvoir chanter par cœur. J'aime pouvoir regarder la direction et ne pas avoir le nez dans ma partition. D'abord parce que pour la posture, c'est toujours mieux de ne pas lire sa partition. Et ensuite, donc c'est un morceau énorme à avaler. C'est long, c'est difficile, mais c'est absolument magique. Ouais.
Tu n'as pas été que dans le cœur.
Non.
Tu te retrouves parfois en face.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce que tu fais en face du cœur?
Qu'est-ce que je fais en face du cœur? Alors, il s'avère que j'ai fait il y a quelques années une formation sur 3 années en ostéo. C'est une formation qui est faite par un ostéopathe belge. Cette formation s'appelle Ostéovox. Et le travail est essentiellement consacré à l'appareil phonatoire. Et donc, la respiration, la voix, l'articulation, la bouche, etc., etc. La position du crâne, les différentes postures, etc. Et donc, j'ai vraiment touché du doigt l'importance primordiale d'avoir un travail corporel qui était nécessaire pour avoir une voix, pour avancer dans le travail vocal.
Savoir se tenir, c'est ça?
Savoir se tenir, savoir utiliser. Son appareil phonatoire. Le chant, c'est pas quelque chose d'inné, en fait. On n'est pas fait pour chanter. La preuve en est, c'est que les muscles du larynx sont des muscles qui sont faits pour se contracter, pour serrer. C'est ce qui nous sauve la vie quand on avale de travers. Ils sont pas du tout faits pour se détendre. Et donc, dans le chant, tout doit être détendu. Il faut qu'il y ait une pression sous-glottique. Donc, la pression d'air qui est sous les cordes vocales ne doit pas être supérieure à la pression qui est au-dessus pour qu'il y ait vraiment une vibration harmonique. En fait, on met en place souvent des stratégies pour pouvoir chanter aigu, pouvoir chanter forte, qui sont des stratégies qui passent par la force. Et on oblige notre corps à plier, alors qu'en fait, il y a des tas de façons de faire pour vérifier où est la langue, où est la base de langue, comment est la mâchoire, si elle est tendue, si elle est souple. Enfin, bon, bref, il y a énormément de choses à travailler là-dessus. Contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas respirer comme un malade quand on veut chanter, parce qu'au contraire, on met trop de pression, on met trop d'air, et c'est là que ça coince. Et donc, ça me semblait vraiment intéressant de faire ce travail-là, de proposer ce travail-là pour le cœur.
Est-ce que tu pourrais être factuel, dire, voilà, peut-être que les personnes qui écoutent l'émission, savoir... Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que
regardes? Je montre qu'il y a 3 étages dans la fusée et que pour chanter, il faut que les 3 étages de la fusée soient allumés et soient coordonnés. Le premier étage, c'est la respiration, c'est-à-dire respiration, quelle prise d'air, comment est le diaphragme, le travail du diaphragme, hein, puisque le diaphragme, c'est le muscle qui va faire s'abaisser les organes. Donc, quand je respire, mon diaphragme, qui est comme une jupe qui entoure mon corps, il va faire s'abaisser mes organes et tous les intestins, etc. Et en faisant s'abaisser les organes, il laisse de la place pour que les muscles puissent étirer les côtes vers les côtés. Et ce sont les muscles qui, laissant de la place aux poumons, permettent à l'air de rentrer. En fait, les poumons, eux, ils font jamais rien.
Qu'est-ce que c'est bien fichu.
C'est bien foutu, hein.
Ah, oui.
Et donc, en fait, il faut une certaine pression pour que ce diaphragme descende, l'air rentre parce que les muscles qui permettent donc l'ouverture un peu des côtes. Donc, il y a une ouverture qui se fait, l'air peut rentrer dans les poumons, comme une pompe à vélo, hein. Et ensuite, la pression, l'air ressort parce que le diaphragme remonte, que d'autres muscles rentrent en jeu pour pousser sur les poumons, et donc l'air remonte. Il remonte dans le deuxième étage de la fusée, et le deuxième étage de la fusée, c'est le larynx. C'est l'étage de la vibration. Donc on a l'étage de l'air, du carburant, donc. On a l'étage de la vibration. Les cordes vocales, elles vibrent. Elles s'accolent et elles vibrent, mais elles ne font rien d'autre. Le son, il n'est pas créé au niveau des cordes vocales. Le son, il est créé dans les résonateurs, troisième et dernier étage. Donc les résonateurs, c'est l'oropharynx, la bouche, les fosses nasales, les sinus, etc. Et donc pour que le chant soit efficace et qu'on ne se fatigue pas et qu'on puisse chanter, il faut que ces trois étages fonctionnent. Donc en fait, ça demande une respiration consciente et bien gérée, une vibration qui ne souffre pas de trop d'air ou de pas assez, et des résonateurs qui vont résonner. C'est-à-dire, je vais mettre tout cet appareil dans une forme particulière pour que le son puisse se créer.
Donc, ce sont des exercices pratiqués avec les membres du cœur.
Oui.
D'accord. C'est l'entraînement avant la répétition. C'est ça, la répétition par le chef.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait... une fois qu'on a repéré ces trois niveaux, je propose des exercices qui vont faire travailler ces trois niveaux. Et l'idéal étant de faire ce qu'on appelle des vocalises ou une mise en voix qui va faire travailler. La mise en voix, elle doit faire tout travailler, c'est-à-dire l'appui sur le diaphragme, une bonne vibration et des résonateurs ouverts.
Comment est-ce qu'on gagne la confiance, un, son patient, sa patiente, en face à face, et puis deux, face à face, avec un pluriel pour le deuxième face, c'est-à-dire on est face à un cœur, on est soi-même membre du cœur. Donc voilà, j'imagine qu'il y a deux manières d'entrer
absolument.
De créer la confiance.
Oui, le patient, c'est lui qui vient nous chercher, c'est lui qui a besoin de nous, et donc il part avec, au départ, dans l'idée qu'on a la compétence pour le faire, et que donc on va l'aider. Et il a besoin qu'on l'aide. Le cœur, il n'a rien demandé. Et il n'est pas du tout obligé de penser que la compétence en face peut l'aider. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même qui pouvaient être sceptiques, tout en étant de façon amicale. Hein. En fait, c'est la preuve par 9, ou la preuve par 6, ou par 3, j'en sais rien. C'est que, au bout d'un moment, les gens se sont rendus compte qu'ils arrivaient à chanter des trucs qu'ils chantaient pas avant, que la voix sonnait, et puis que les musiciens professionnels qui viennent d'une année sur l'autre, un beau jour, ils arrivent, ils font « Waouh !» On n'avait jamais entendu le cœur comme ça. Donc, là, les gens se rendent compte que eux, ils y sont arrivés. Et qu'en travaillant à la bonne échelle, ils y sont arrivés, qu'ils en étaient capables, en fait.
De quelle manière s'exprime le contentement d'avoir bien chanté dans votre cœur? Qu'est-ce que tu as noté? Est-ce qu'il y a une nouvelle confiance, une manière de montrer sa confiance, une manière d'être ensemble, l'évolution d'un cœur? Donc à partir du moment avant que tu aies commencé à faire ton travail de préparatoire, comment tu as vu la transformation chez les membres du chœur ?
Ben d'abord, je l'ai entendu à l'oreille, hein. Ça, c'est, ça, ça trompe pas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que les objectifs étaient atteints. Par exemple, si on se donnait comme objectif de travailler sur la souplesse, par exemple, ben voilà, au bout d'un certain nombre de séances, les gens avaient acquis la souplesse. Si on avait décidé de travailler sur la brillance ou sur... les fortés, sur les, des choses comme ça. Après, moi, je m'en suis rendu compte parce que les gens, petit à petit, venaient me demander individuellement des conseils par rapport à leur propre voix. Et puis, je pense que dans un chœur, on se rend vraiment compte de ça quand on est en concert. Parce qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Voilà, c'est un peu indescriptible le sentiment qu'on a des fois en concert. On a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. On sait qu'il se passe quelque chose. Et puis le public et voilà, le public, on voit qu'on les a attrapés et qu'ils sont heureux d'être là et qu'ils sont un peu épatés parfois de ce qu'ils ont entendu.
Qu'est-ce que tu as découvert de toi grâce au chœur?
Dans le fait d'être choriste ou dans le fait de faire la technique vocale? Dans la technique vocale, j'ai découvert la pédagogie.
La pédagogie, tu veux dire la patience?
Non, la pédagogie, le fait de savoir parler à un groupe, je n'avais jamais fait ça. Et ça ne s'improvise pas, enfin, je veux dire, on ne s'improvise pas. En fait, tu es enseignante, tu le sais. C'est complètement autre chose d'être face à un groupe que d'être face à un patient ou à un patient et à sa famille. Voilà, il y a des choses qu'il faut savoir faire, qu'il faut penser à faire au départ et qui m'étaient pas naturelles. Et par exemple, tout bêtement, s'adresser à tout le monde, regarder tout le monde. Trouver des exercices qui puissent être compatibles avec tous les niveaux, tout le monde, savoir s'adapter. Oui, la pédagogie, j'ai découvert ça. La pédagogie de face à un groupe, oui. Moi, je connaissais, mais je sais pas. Quand on est dans le soin, on n'est pas dans la pédagogie, en fait.
Et le chant, le fait d'être chanteuse, qu'est-ce que tu as découvert de toi dans les expériences seules? Tu chantes aussi à la maison. Tu es dans une église. Je t'ai entendu plusieurs fois rentrer dans une église et puis essayer
l'acoustique.
L'acoustique.
Bon, on parlait de joie, oui, la joie, le bonheur de chanter. Ouais. Chanter, c'est un pur bonheur. Ouais.
Est-ce que tu pourrais le bonheur, c'est-à-dire un sentiment d'éternité, ou est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est
alors,
écrasant? Est-ce que c'est...
Non, c'est, pour employer un gros mot, c'est de la transcendance, le chant. C'est être traversé par plus grand que soi.
Donc, ta foi, elle est là, elle rencontre aussi,
oui,
le plus grand que soi,
ouais,
par
ouais,
le chant.
Oui, tout à fait.
Je crois que les Calvin n'aimait pas trop la musique ou les opéras, donc...
Oui, mais bon...
Oui, on peut être un grand réformateur.
Oui,
ouais,
oui, ne pas. Oui, bien sûr, tout ce qu'il pouvait.
Mais toi, tu ne vois pas un divertissement.
Et grâce à Calvin, en face, le catholicisme a payé des musiciens pour écrire des œuvres somptueuses. Donc, c'est un peu grâce à nous aussi que tout ça existe.
On a eu Marot quand même pour le psautier. Quand même, hein, Goudimel, Marot, ça va, c'est pas mal. Donc, chantant. Et ta foi, si tu veux bien qu'on aborde ce sujet, est-ce que tu l'as toujours eu?
Je ne sais pas. Je sais pas ce que je pense que la relation à Dieu, je l'ai toujours eue, parce que c'était dans mon éducation. Donc, j'ai eu une éducation religieuse très tôt, une famille pratiquante, donc la relation à Dieu a toujours existé, c'est-à-dire je pense que j'ai toujours parlé à Dieu depuis que je suis toute petite, mais la foi telle que je la connais maintenant, non, je pense pas que je l'ai toujours eue, non.
Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette foi d'aujourd'hui?
Oh là là, Ben, c'est qu'elle est dans la joie, en fait.
C'était plus de l'austérité avant, une joie, enfin, je veux dire, une foi qui était dans la contrainte des règles. D'un,
non, d'un c'est pas ça, mais en tout cas, quelque chose qui n'était pas. Qui n'était pas de l'ordre du révélé, en fait. Je crois que je suis simplement dans la certitude, quelque part. En fait, tout le monde est en proie au doute. Et quand on connaît des aléas de santé, etc., c'est vrai que c'est compliqué. Mais j'ai une espèce de confiance. Voilà. Foi, c'est la confiance.
Pour terminer cette conversation, cette seconde conversation, si ce n'est pas impudique, est-ce que tu pourrais dire comment tu as été frappé par la révélation ? Je crois que ça, c'était dans une église.
Oui, oui, c'était il y a un bon nombre d'années maintenant, où ben justement au lendemain d'un concert, je suis allée récupérer des chaussures, comme quoi les voies du Seigneur sont impénétrables. Je suis allée dans l'église où nous avions chanté, je suis allée récupérer des chaussures qui avaient été oubliées dans le petit local là où le prêtre se change, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, j'ai récupéré les chaussures, et puis il y avait une jolie lumière dans cette église, qui pourtant assez moche, hein, mais il y avait une jolie lumière, donc je me suis assise, et je regardais le soleil dans les vitraux, et puis j'ai tourné la tête, et il y avait un énorme panneau qui avait dû être fait par des catéchumènes, et où il était écrit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guérie. » Et je suis encore incapable de le raconter sans avoir envie de pleurer, parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai éclaté en sanglots de bonheur, en fait. J'étais envahie par la joie. Et voilà.
Merci Hélène, c'était ton second au fil du fer.
Oui.